Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sunou Bank avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Elle tient, elle attrape, elle touche, c'est notre premier outil. Aujourd'hui, nous allons parler des accidents de la main dans Priorité Santé. Ce sont dans la vie courante les accidents les plus fréquents et dans le cadre professionnel, là aussi, une part importante d'atteintes corporelles soignées aux urgences concerne la main. D'où l'importance d'améliorer la prévention en identifiant les risques, de faire passer les bons messages pour savoir comment réagir en cas de coupure, de morsure, de brûlure, mais aussi d'augmenter les capacités de prise en charge, en particulier la spécialisation de chirurgie de la main pour éviter la perte partielle ou totale de l'usage de cet outil à la fois complexe et fragile. Alors si vous avez des questions, si vous souhaitez témoigner sur notre sujet du jour, prévenir, prendre en charge les accidents de la main, appelez-nous. Notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 71 18 46 41. Dispositif de protection, repérer les situations à risque pour conserver les 10 doigts de ses deux mains. Chirurgie de la main, spécialité à part entière, en studio avec nous, docteur Patrick Knipper, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, chirurgien de la main à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Vous présidez, docteur Knipper, l'ONG Interplace France, chirurgie sans frontières, avec laquelle vous intervenez un petit peu partout dans le monde, dans des zones de conflit ou de crise sanitaire. Un autre spécialiste de la main qu'on va retrouver tout à l'heure, le président de la Société de chirurgie de la main de la République démocratique du Congo, professeur Anatole Kibadi Kapey, chirurgien plasticien, chirurgien de la main, qui se trouve en ce moment à Paris à l'occasion du 60e congrès de la Société française de chirurgie de la main. Ça se passe au Palais des Congrès. Et puis en fin d'émission, on va revenir sur les dernières recommandations vaccinales suite à l'augmentation des cas de dengue dans les Outre-mer. Recommandation de la Haute Autorité de Santé, on va donner la parole à la présidente de sa commission technique des vaccinations, l'infectiologue professeur Anne-Claude Crémieux.
Priorité Santé sur RFI.
Alors docteur Knipper, votre ONG Interplace Chirurgie Sans Frontières, qui travaille étroitement avec Action Santé Femmes, se rend donc sur les zones de crise. En ce moment, on n'a qu'à écouter les informations. Zone de crise, évidemment, on pense à Mayotte, le territoire français d'outre-mer. 5 jours après le passage du cyclone Chido, est-ce que vous préparez une opération là-bas ?
Oui, tout à fait. Là, dans le cadre de l'urgence et de Mayotte, c'est surtout l'ONG Action Santé Femmes qui va envoyer des gynécologues et des sages-femmes, parce que dans l'urgence et dans l'urgence des catastrophes, il y a toujours l'urgence différée, l'urgence secondaire. Nous, en tant que chirurgien réparateur, on intervient secondairement, c'est-à-dire pour réparer. Mais dans l'urgence, c'est l'ONG avec laquelle je suis, Action Santé Femmes, qui va envoyer des gynécologues et des sages-femmes pour l'urgence, pour les césariennes. Il faut imaginer que c'est la plus grande maternité de France. Action Santé Femmes intervient déjà depuis plusieurs années pour envoyer régulièrement du personnel face au marasme et à la sous-dotation de ce département. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une urgence et il faut penser à eux, il faut les aider, parce que toutes les mamans qui accouchent et les enfants doivent être pris en urgence. Et donc vraiment, c'est important de les soutenir aujourd'hui. Donc soutenez Action Santé Femmes.
Ça veut dire, on pense toujours à cette première urgence, mais il y a tous ces soins, maladies chroniques, maternité, soins au long cours qui sont toujours là.
Bien sûr, il faut imaginer le quotidien. Déjà, la première urgence, c'est l'eau. Et puis après, il y a l'urgence du quotidien avec évidemment les maladies, les accidents. Ça va être la traumatologie que l'on va intervenir, que l'on va réparer secondairement. Mais en urgence, imaginez qu'une maman qui est enceinte, eh bien, cyclone ou pas cyclone, elle accouche. Elle va accoucher dans sa case, elle n'a plus de case. Elle va accoucher sous sa tôle, elle n'a plus de tôle. Donc l'hôpital, vous savez que la clinique et l'hôpital de Mamzou est vraiment suroccupé. Mmh. Et c'est hallucinant. Donc moi qui pars beaucoup en mission dans les pays en voie de développement, je suis toujours choqué, et on est choqué de se demander, là c'est la France, donc là on est dans un pays en voie de sous-développement, donc ça sert à rien d'aller partir très très loin dans d'autres pays, occupons-nous déjà de ce département.
De nos territoires. Alors on va revenir à notre sujet du jour, hein, protéger, prendre en charge les accidents de la main, et comprendre d'abord, docteur Patrick Knipper, il faut insister là-dessus, pourquoi nos mains sont tellement précieuses ?
Parce que c'est l'organe le plus noble après le cerveau. c'est un prolongement du cerveau. La pulpe du doigt, c'est votre œil, c'est l'œil du cerveau. Donc, il faut le préserver parce que vous préservez votre identité, puis c'est l'outil le plus important du corps.
Est-ce que vous avez, alors que justement vous soulignez que c'est un outil essentiel pour l'activité humaine, que d'une certaine manière, on a un petit peu tendance à les négliger. Bien sûr, on les utilise à chaque seconde sans s'en rendre compte, mais finalement, pour les protéger, on ne met peut-être pas tous les moyens à la hauteur, justement, de la richesse, des capacités, des compétences de nos deux mains.
Bien sûr, parce que comme c'est plus petit que d'autres organes et peut-être moins visible, parce que vous pouvez les cacher, vous le protégez moins. Mais faites l'expérience de passer 24 heures avec un sparadrap sur la pulpe des doigts. Vous verrez à quel niveau d'handicap vous pouvez atteindre rien que par l'aveuglement d'une pulpe. C'est-à-dire que le problème des plaies de la main, c'est qu'elles sont petites, elles sont mineures, elles sont sous-estimées souvent, et c'est pour ça qu'on les néglige.
Ça veut dire que la première approche, c'est bien identifier les risques potentiels pour mettre en place des protections. Ça veut dire aussi bien éviter qu'employer des dispositifs de protection, on pense bien sûr aux gants.
Mais bien sûr, la première protection, c'est le gant, et puis c'est l'anticipation sur la formation, notamment pour tous les travaux de jardinage, de bricolage, ne pas faire n'importe quoi. Et le paradoxe des plaies de la main, et de l'importance des plaies de la main, c'est qu'elles ne sont pas toujours très importantes. Vous voyez, quand vous avez un gros accident de la main, une amputation, un gros accident, vous êtes envoyé à l'hôpital, donc vous êtes pris en charge. Le paradoxe des plaies de la main, c'est que souvent elles sont petites, sournoises, elles sont négligées, et c'est là qu'on aboutit à des catastrophes.
Alors, docteur Patrick Knipper, pour revenir à cette anatomie qui est complexe, hein, c'est bien pour ça qu'il y a une spécialité en tant que telle, est-ce que vous prenez en charge aussi des pathologies, on va dire, qui sont plus lancinantes, qui s'installent dans le temps, par exemple parce qu'on fait des actes ou des gestes répétitifs?
Mais tout à fait. Il y a dans la chirurgie de la main, vous avez l'urgence, et vous parliez d'anatomie et d'organes complexes. C'est un organe tellement complexe qu'il associe toutes les spécialités. C'est pour ça qu'à l'origine, la chirurgie de la main fait appel aux chirurgiens plasticiens qui connaissent l'anatomie, la microchirurgie, etc., et les chirurgiens orthopédistes qui travaillent l'os. Donc la priorité, c'est de traiter en urgence les plaies, mais vous avez tout à fait raison, il y a aussi des plaies sourdes, des entorses, des maladies chroniques, de l'arthrose ou des maladies rhumatismales. Donc la chirurgie de la main est complexe, elle intervient en urgence et en secondaire.
Ça veut dire en situation critique, docteur Patrick Knipper, on pense forcément au pire qui peut arriver, hein, c'est l'amputation d'un ou plusieurs doigts. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça peut arriver avec un outil, on pense à une scie, on pense à un couteau, une hache ou en milieu professionnel, beaucoup d'objets tranchants. Quelqu'un se coupe le doigt devant nous, on est à côté, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, tout dépend de la coupure. Du plus simple, ça, c'est coupé, ça saigne. Pas d'affolement. L'idéal, c'est de laver avec de l'eau et du savon ou de laisser couler le robinet sur la plaie, de prendre un chiffon ou un textile assez propre, de comprimer et de mettre la main en l'air. Une hémorragie au niveau des doigts s'arrête toujours. Pas de garrot, pas de geste intempestif. Vous comprimez, ça s'arrête toujours. L'autre cas de figure qui est l'amputation, donc ça c'est la version la plus grave, donc là aussi pas d'affolement. Le moignon, c'est-à-dire la partie qui est amputée, vous la lavez ou vous la comprimez avec un textile propre. Et la partie amputée, là c'est très important, vous ne la mettez pas dans la glace, parce que de manière habituelle et de manière souvent fausse, les gens mettent le bout de doigt dans la glace, au contact de la glace, ça va faire mourir le fragment amputé. Donc il faut le mettre dans un sac en plastique, et ce sac en plastique, vous le posez sur la glace. Pour le conserver, l'idéal à 4 degrés. Donc, je répète bien, vous mettez l'organe amputé dans un sac en plastique et vous le mettez sur la glace.
On le rafraîchit, on ne le congèle pas.
On ne le congèle pas, on le rafraîchit et on l'isole de la glace parce que sinon, il y a une mort cellulaire.
Alors, on va prendre un premier auditeur en ligne. On part tout de suite pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Enoch. Enoch, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors rapprochez-vous bien du téléphone Enoch s'il vous plaît. Vous avez 25 ans, vous travaillez dans le bâtiment. Récemment vous avez une blessure à la main. Expliquez-nous s'il vous plaît ce qui s'est passé.
Bon, il est d'ici là 4 à 5 mois. Ouais. Comme vous venez de le dire, j'étais en train de travailler dans le bâtiment et j'avais une scie électrique à la main. J'étais en train de découper un morceau de bois. Je n'ai rien compris et la scie s'est attaquée à mon pouce gauche. Et là, j'ai commencé à paniquer, ça saignait abondamment. Ouais. Et brusquement, un de mes collègues est venu avec un mouchoir pour couvrir la plaie.
Oui.
Et le second est venu avec un genre de poudre mettre à la plaie, ce qui a peu de temps après arrêté l'hémorragie.
D'accord. J'ai une question, Enoch, excusez-moi. Est-ce que vous portiez des gants de protection quand vous étiez en train de faire ces travaux avec une scie?
Non, je ne portais pas de gants de protection parce que je ne me sens pas vraiment très à l'aise quand je porte les gants.
Ça vous gêne pour le travail, c'est ça? Ça vous gêne pour le travail?
Oui.
J'ai une autre question. Est-ce que vous travaillez pour un patron? Parce que vous dites qu'il y avait des collègues qui sont venus vous aider. Est-ce que le patron, il met à disposition des gants ou est-ce qu'il n'y en a pas sur le lieu de travail?
Il y en a sur le lieu de travail, sauf que moi, je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Je ne me sens pas vraiment très à l'aise en les utilisant.
D'accord. Donc, après la blessure, on a entendu vos compagnons de travail, ils vous ont aidé. Vous êtes allé rapidement à l'hôpital après?
Non. Vu que la douleur était intense, j'ai décidé de rester au travail, mais me reposer un peu. Oui. Mais vu que la douleur s'est intensifiée, j'avais décidé de rentrer à la maison. Je n'étais pas allé à l'hôpital directement, j'étais rentré à la maison.
Vous y êtes allé finalement combien de temps après à l'hôpital?
Bon, je peux dire même le lendemain, vu que la nuit, je n'avais pas trouvé le sommeil.
Ouais. Et est-ce que la blessure, pendant ce temps-là, elle s'était abîmée entre le temps de l'accident et le temps de la consultation?
Bon, ce qui est sûr, j'ai remarqué, la plaie changeait un peu de couleur.
Ouais.
Donc, c'est ce que j'ai remarqué le lendemain.
Quand vous êtes allé à l'hôpital, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'ont fait les médecins?
Bon, quand je suis arrivé à l'hôpital, le médecin a vu la plaie. Ce qu'il m'avait dit que ce n'était pas vraiment très grave, c'était juste une petite coupure. Et puis, il m'avait prescrit un antibiotique et un antidouleur.
D'accord. Aujourd'hui, comment ça se passe? On a dit on est 4-5 mois après. Est-ce que vous avez encore des douleurs? Est-ce qu'il y a encore des traces de cette cicatrice?
Bon, je n'ai plus de douleurs, il n'y a plus de traces, mais j'ai quand même quelques inquiétudes.
Alors, allez-y, faites-nous part de vos inquiétudes, Enoch. Le docteur Patrick Knipper, un spécialiste de la main, vous écoute. Allez-y, je vous en prie.
Oui, c'est un ce qui m'inquiète le plus. J'ai parlé de ça avec ma maman. Elle m'avait parlé de tétanos. Vu que c'est une scie, elle m'a dit peut-être que tu as eu la tétanos et tu devrais aller à l'hôpital suivre un traitement, voir un médecin au cas où ça peut te rattraper à l'avenir, donc c'est un peu ça qui m'inquiète.
C'est une inquiétude tout à fait légitime, hein, Enoch. D'ailleurs, parce que la question toute simple, c'est quand vous êtes allé à l'hôpital, on ne vous a pas fait un rappel de tétanos?
Non, on ne vous l'a pas proposé non plus.
Les médecins ne vous l'ont pas proposé. D'accord. Donc moi, je me tourne vers le spécialiste, Dr Patrick Knipper. Enoch, qui s'inquiète du risque de tétanos. Est-ce que cette question, elle est légitime? Est-ce qu'il faut faire un rappel? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là?
Oui, bonjour Enoch. Oui, alors c'est tout à fait légitime, mais s'il avait fait un tétanos, il l'aurait déjà fait.
D'accord.
Donc là, je réponds, il peut le rassurer, il n'a pas fait de tétanos. En revanche, son témoignage est très probant parce qu'il y a tout. À l'origine, après la plaie de la main, Enoch, ne rien appliquer dessus. Il y a tout dans votre témoignage. Ne pas mettre des choses, des onguents, des pommades, des choses comme ça. Vous lavez avec de l'eau et vous comprimez. Votre collègue a eu un très bon réflexe. Ensuite, vous avez eu l'attitude qu'on a tous, c'est-à-dire qu'on ne va pas consulter parce que c'est un petit truc, ça saigne, ça s'arrête. On a tous ce réflexe avec les plaies de la main, alors que si vous aviez eu une entorse ou des choses comme ça, vous auriez consulté, mais c'est classique. On a le petit truc, on ne consulte pas, et ça, c'est l'erreur première à la chirurgie de la main, parce que parfois, les petites plaies donnent les plus mauvais résultats. En revanche, pour le tétanos, nous, c'est systématique. On a une vaccination contre le tétanos qui est généralement à jour, avec un rappel éventuellement. Sinon, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous fait systématiquement la prévention antitétanique. Mais je vous rassure, si vous aviez eu le tétanos, ça aurait été tout de suite. Et juste pour une petite parenthèse, c'est les petites plaies avec une épine de rosier, de bricolage, etc., qui engendrent le plus de tétanos. Quand il y a des gros fracas, des grosses plaies avec des scies circulaires, etc., généralement, on est pris en charge à l'hôpital et là, paradoxalement, il y a moins de tétanos. Mais une scie qui marche tous les jours sur le chantier a peu de chances d'avoir du tétanos.
Enoch, j'ai une question. Vous êtes retourné sur le chantier depuis?
Bon, sur le chantier, je ne suis plus retourné à problème d'impériment. Donc, je ne suis plus retourné depuis là, je ne suis plus retourné.
Et vous faites encore des travaux ou pas?
Bon, pour le moment, c'est juste des petits travaux, des bricolages à la maison, vu qu'il n'y a rien à faire. J'essaie un peu de me distraire.
D'accord. Vous ne voyez pas où je veux en venir, hein. Je vous pose juste la question. Est-ce que vous mettez des gants maintenant?
Maintenant, pour être franc, non.
Je m'en doute.
Pour être franc, non.
Je m'en doutais. Donc, je ne vais pas vous faire la morale, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous avez été blessé, vous avez gardé vos doigts. C'est génial, franchement. Il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de surinfection. Mais maintenant, il faut prendre soin de vous quand même, non, Enoch?
Oui, oui. Vous avez raison, je vais faire un effort de porter les gants, voilà. Même si je ne me sens pas à l'aise avec.
Il faut faire des petits efforts,
mais je vous rassure, Enoch, nous sommes tous pareils, parce que nous, qui sommes derrière le micro, on vous donne des conseils, mais le problème de la chirurgie de la main, c'est qu'on raisonne tous de manière humaine. Les gants, c'est embêtant, on ne les met pas, et puis on fait tous ces petites bêtises, et tous les patients qui arrivent aux urgences disent toujours « docteur, c'est bête, c'est stupide, etc. » Mais c'est vrai que pour les gros travaux, surtout coupant, essayez de faire quand même l'effort de mettre des gants, mais on ne va pas vous donner de conseils parce qu'on est comme vous, on est tous négligents.
Ce n'est pas faire la morale, mais c'est parce qu'on a envie que vous gardiez tous vos doigts, parce que franchement, la vie est belle avec ses 10 doigts, c'est pour ça. Très très bonne journée à vous, Enoch. On va poursuivre cet échange, Dr Knipper, prendre d'autres auditeurs en ligne, juste après ce titre de Bill Withers, Grandma Hans, dans Priorité Santé sur RFI.
Grandma's hands clapped in church on Sunday morning. Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast. Might fall on a piece of glass. Might be snakes there in that grass. Grandma's hand. Grandma's hand soothed the local unwed mother. Grandma's hand used to ache sometimes and swell. Grandma's hand used to lift her face and tell her she'd say, baby, grandma, understand that you really love that man. Put yourself in Jesus' hands, grandma's hand. To hand me a piece of candy. Grandma's hand picked me up each time I fell. Grandma's hand, boy, they really came in a handy. She'd say, Matty, don't you whip that boy. What you wanna spank him for? He didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I'll look for grandma.
Priorité santé sur RFI, on parle aujourd'hui des accidents de la main. La plupart d'entre eux surviennent dans la vie courante. Comment les prévenir et les prendre en charge? Toujours en studio avec nous, Dr Patrick Knipper, chirurgien spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, chirurgien de la main à l'hôpital européen Georges Pompidou à PHP de Paris. Dr Knipper, en termes de préservation des mains, vous insistez en particulier sur l'un des doigts, le pouce. Pourquoi notre pouce est-il le roi des doigts?
Parce que le pouce nous différencie des autres espèces. Il est en opposition. Quand vous regardez votre main, tous les doigts ne sont pas sur le même plan. Il y a le pouce qui vient se mettre en opposition. Et pour nous, la fonction fondamentale, c'est ce qu'on appelle la pince entre le pouce et l'index. Donc, quoi qu'il arrive, en microchirurgie, on reconstruit, on se bat au maximum pour toujours conserver cette pince entre le pouce et l'index.
Et en mesure de prévention très simple, ce sont les bagues. Hein, je vous parle, j'ai beaucoup de bagues, mais je n'en ai pas au pouce. Pourquoi, justement, vous avez ce message? Éviter absolument les bagues au pouce, même si ça peut être à la mode ou esthétique.
Parce qu'il y a dans notre spécialité ce qu'on appelle le ring finger, c'est-à-dire que la bague peut s'accrocher à n'importe quel objet, au sac, à un grillage, et va arracher. Donc la bague va L'objet va tirer sur la bague et arracher le doigt. Et donc, on appelle ça un ring finger. Pour nous, c'est une chirurgie très, très compliquée. Et ça touche évidemment l'annulaire. C'est pour ça qu'on déconseille fortement de mettre une bague sur le pouce. Parce que si vous arrachez le pouce, pour nous, c'est dramatique.
C'est fréquent en chirurgie de la main, justement, les accidents liés aux bagues ?
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tous les bijoutiers, il faut demander. Alors là, si vous portez une bague, allez chez le bijoutier. Faites-la affaiblir, ils scient un petit peu, ça ne se voit absolument pas, mais ils affaiblissent à un endroit la bague, ce qui veut dire que si la bague est accrochée sur une sangle ou un grillage ou un objet, elle va se casser plutôt que de vous arracher le doigt. Pour moi, c'est capital. D'ailleurs, moi, je suis terrorisé, je ne porte pas de ma bague parce que je suis terrorisé pour ça.
D'autres questions en direct, on part tout de suite pour le Cameroun.
RFI à Douala. 97.8 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Cabrel. Cabrel, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes âgé de 27 ans, Cabrel, et c'est vous aussi dans le cadre professionnel hein, que vous êtes blessé il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous raconter ce qui s'est passé ?
Ouais. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. En fait, je suis...
Bonjour.
Je suis employé dans une société de cosmétiques et ça fait 4 ans aujourd'hui que... J'ai eu un accident au niveau de la main droite, la presse à savon. Par une inattention, j'ai mis la main dans le moule et les deux presses se sont appuyées dessus. Et les doigts qui ont eu le plus de problèmes, c'était le pouce et l'index. Ouais, je pense.
Vos doigts ont été écrasés, c'est ça ?
Écrasés, c'est ça.
Vous avez été pris en charge à l'hôpital immédiatement ?
Oui, directement. C'est quand j'ai eu l'accident, on a mis une voiture de service qui m'a amené directement à la clinique.
Est-ce que vous avez été opéré dans la foulée de l'arrivée aux urgences ?
Non, lorsque j'arrive aux urgences, c'était une clinique, puisque c'est notre clinique de service. On a juste fait des bandages et c'est le lendemain que j'ai été opéré.
Le lendemain. Ensuite, est-ce qu'il y a une immobilisation ? On a bloqué la main justement pour que les choses se cicatrisent ou se remettent en place doucement ?
Oui, on a bloqué la main pendant 2 semaines, mais il y avait des pansements réguliers tous les 2 jours.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore les marques de cette blessure, de cet accident du travail ?
Je dirais non. Comme je dis, à 90%, j'ai plus vraiment. Mais lorsque je fais le pouce assez fort, je fais des mouvements brusques. Je porte des charges vraiment très très lourdes. Je peux sentir des sensations, mais je ne dirais pas que j'ai mal.
Donc aujourd'hui, ce sont ces douleurs résiduelles. Précisément, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui se passe pour votre main 4 ans après l'accident ? Je vous en prie, Cabrel, allez-y.
Oui, des questions. J'aimerais savoir si ces douleurs, ce sont des sensations dans la tête ou bien ce sont vraiment des douleurs. Je ne peux pas dire si ce sont des douleurs, puisque je sens pas mal, mais j'ai la sensation que j'ai mal à ce niveau-là. Et aussi au niveau des cicatrices. Est-ce qu'il y a une pommade ou quelque chose qui peut faire disparaître la cicatrice ?
Donc, 2 questions complètement différentes. Est-ce que la douleur de Cabrel, c'est dans la tête ? C'est un petit peu ce qui se pose comme question aujourd'hui.
Bonjour Cabrel, merci pour votre témoignage. D'abord, il faut féliciter l'équipe qui vous a reçu et le traitement parce que nous, les mains de presse, on n'en voit quasiment plus aujourd'hui. Et les mains de presse, c'est-à-dire que c'est quand vous mettez la main sous une presse qui va écraser un objet, c'est gravissime. Moi, je me souviens, quand j'étais interne de chirurgie, on en voyait. Mais aujourd'hui, avec les protections, normalement, ça ne devrait plus arriver. Vraiment, la prévention au niveau des normes dans les usines doit être primordiale. On voit plus ce type d'accident, mais qui peut être gravissime. Donc, je félicite l'équipe qui vous a pris en charge parce que vraiment, vous avez récupéré votre main. En plus, l'élément fondamental chez vous, c'est la rééducation. La rééducation, vous avez continué à vous servir de la main et ça, c'est fondamental parce que trop souvent, quand les gens sont blessés, ils évitent de se servir de l'organe un peu abîmé. Vous avez continué à travailler, à faire une bonne rééducation et je vous conseille de continuer. C'est le meilleur des traitements, la rééducation. Ensuite, concernant ces douleurs que vous appelez douleurs, nous on appelle ça des paresthésies, c'est-à-dire que dans l'écrasement, vous avez probablement eu des lésions au niveau des nerfs et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est le massage, c'est la kiné, c'est l'activité, reprendre une vie normale, c'est la meilleure des rééducations. Mais ce que vous décrivez, ce ne sont pas vraiment des douleurs, ce sont des interprétations de paresthésie par écrasement des nerfs. Donc massez la main, rééduquez-la, expliquez-lui que la main refonctionne. On appelle ça des paresthésies, ça peut être très long.
Et la cicatrice ?
Alors la cicatrice, il faudrait voir est-ce que c'est vraiment nécessaire. Si elle touche la face dorsale de la main et qu'elle n'est pas belle, on peut la reprendre par une intervention en anesthésie loco-régionale. On peut la réparer, l'améliorer. Si c'est une cicatrice kéloïdienne, on peut faire des injections de corticoïdes. Mais si elle fait des brides, ce qu'on voit souvent dans la chirurgie de la main, donc on fait des petites plasties. Donc ça, c'est des interventions qu'on fait sous anesthésie loco-régionale. C'est pas très compliqué.
C'est pas compliqué. Merci en tout cas, Cabrel, pour votre appel, votre témoignage. Très bonne journée à Douala. À Libreville, au Gabon, on retrouve maintenant Elmer. Elmer, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous avez aujourd'hui la trentaine, mais vous avez une blessure qui remonte à l'enfance. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes blessé à la main ?
Oui, je me suis blessé, c'est par accident de circulation. Donc je venais de l'école et ensuite je suis tombé. La voiture, il y a un monsieur qui voulait garer sa voiture au parking et il a garé sur moi. Donc sur ma main, il s'est déplacé pour aller vaquer à ses occupations. C'est des personnes qui étaient autour qui ont soulevé le véhicule pour m'enlever la main sous les roues du véhicule. J'ai été conduit à l'hôpital. Oui.
On peut imaginer que vous avez été opéré après cet accident qui est absolument épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, bon, j'ai été opéré, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Mais ce qui est compliqué, c'est la déformation en fait des doigts. Voilà, donc les doigts sont déformés depuis longtemps jusqu'à présent et on n'a jamais trouvé une solution pour cela.
Quand vous dites déformés, excusez-moi Elmer, ça veut dire qu'ils sont tout tordus, votre main, elle a un aspect qui n'est pas très esthétique, c'est ça ?
Oui, les doigts ne sont pas très esthétiques, donc la main gauche, les doigts de la main gauche et celle de la main droite ne sont pas pareils parce que j'ai eu un accident.
Ouais. C'est quelque chose qui vous gêne dans la vie courante, justement, cette main très abîmée ?
Oui, elle me gêne parce que je n'arrive pas, soulever, exemple, 10 kilos à une cinquantaine de mètres, c'est presque impossible sans me reposer.
Oui.
Voilà. Mais sinon, je travaille avec, j'écris tranquillement avec, je vais faire d'autres choses, mais soulever, exemple, un poids à plus de 50 mètres ou encore 5-6 minutes avec ça, ce n'est pas vraiment possible.
Donc aujourd'hui, votre question, ça veut dire, est-ce qu'après autant de temps, on peut trouver des pistes ou esquisser des solutions pour ce genre de problème, c'est ça ?
Oui. Est-ce qu'avec tant d'années, est-ce qu'on peut, si c'est déformé, c'est parce que je remarque, les os certainement sont déformés aussi.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on peut redresser malgré le nombre d'années ?
On peut imaginer, docteur Patrick Knipper, un écrasement important sur la main d'un enfant. Aujourd'hui, plus de 20 ans ont passé. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Elmer ?
Mais malheureusement, je ne peux pas répondre grand-chose à Elmer. Bonjour Elmer. Pour nous, c'est pour moi, c'est les situations les plus difficiles quand je suis en mission, quand je suis dans les pays en voie de développement ou quand je vais opérer en zone rurale. C'est ces pathologies qui datent de l'enfance. Le problème, c'est que ça grandit. C'est-à-dire que la déformation grandit, les os grandissent et se rétractent avec le temps et les années. Et pour nous, à l'âge adulte, c'est parfois quasiment impossible à réparer. La déformation est très importante à prendre en compte chez Elmer, à la fois sur le plan fonctionnel, parce que là, on peut essayer d'intervenir sur une réaxation d'un doigt, on peut rétablir, faire un transfert tendineux pour que la fonction soit beaucoup plus facile. Et puis aussi, cet aspect esthétique est important. C'est le côté fonctionnel de l'esthétique. L'esthétique a une fonction en chirurgie de la main. Une vilaine main est cachée, n'est pas utilisée. Donc l'esthétique n'est pas à mépriser, l'esthétique est à respecter. Une belle main doit être importante à respecter. Mais pour répondre à Elmer, il a senti d'ailleurs, dans son témoignage, ça a été fait à l'âge de 8 ans. Les os ont grandi, la déformation a grandi et donc pour nous c'est les cas les plus difficiles à traiter. C'est pour ça qu'il faut consulter tout de suite un chirurgien de la main.
Un grand merci en tout cas à Elmer, à vous pour votre participation dans Priorité Santé. Docteur Knipper, on va donner maintenant la parole à l'un de vos confrères de la République démocratique du Congo. C'est vous, professeur Anatole Kibadikapaï. Bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous êtes chirurgien plasticien, chirurgien de la main, vous exercez à Kinshasa mais en ce moment vous êtes en France, à Paris, à l'occasion du 60e congrès de la Société française de chirurgie de la main, dont vous êtes membre, ça se passe au Palais des congrès donc, et professeur dans votre pratique, vous constatez que dans quelles circonstances la plupart de vos patients se blessent ou sont blessés au niveau des mains ?
Alors, le malade sont généralement blessés au niveau de la main au cours des accidents, des circulations, mais plus particulièrement aujourd'hui au cours des traumatismes urbains par des armes blanches, ce qu'on appelle des machettes. Dans la ville-province de Kinshasa, on parle de phénomène Kuluna. Ce sont en fait des jeunes gens qui, avec des machettes, parfois blessent accidentellement deux passagers. Donc, beaucoup plus de lésions dues au traumatisme. Des accidents, oui, classiquement, mais actuellement, on a un phénomène nouveau, qui est un phénomène par arme blanche qu'on appelle le phénomène Kuluna.
Ça veut dire que ce sont des crimes de droit commun ou c'est simplement que les personnes entrent en contact avec ces machettes et se blessent tout seuls?
Non, ce n'est pas tout ça. Ce sont en fait des crimes. Hein,
des
crimes,
ce sont des attaques à main armée. Ce sont des attaques.
Attaques à armes blanches.
D'accord. Donc, on peut imaginer que c'est particulièrement complexe en termes de prise en charge. Au moins, on peut penser que les personnes arrivent aux urgences et sont soignées dans des délais assez rapides.
Oui, ça dépend de là où le patient habite. S'ils habitent dans des quartiers très périphériques, généralement, ils arrivent beaucoup plus tard, mais si c'est tout proche des grands centres, entre autres des cliniques universitaires de Kinshasa où je pratique, donc ils arrivent très précocement. Mais disons que ce sont des lésions beaucoup plus graves qui atteignent en fait le squelette, donc l'os, le partie molle, entre autres les tendons, les nerfs, donc la prise en charge est beaucoup plus complexe.
On peut bien imaginer, ça doit être absolument abominable à prendre en charge comme opération, en tout cas à vivre pour les personnes qui sont attaquées dans ces conditions. Quand ils arrivent justement après un certain temps dans vos structures de soins, est-ce qu'ils se sont arrêtés entre-temps chez, on va dire, un praticien local, quelqu'un du quartier qui va faire des soins en première urgence, en premier recours?
Disons que le tradit praticien, non. Hein, le tradit praticien ne traite pas des lésions traumatiques, des lésions qui saignent. Mais il arrive parfois qu'ils consultent des centres hospitaliers périphériques. Oui. Par exemple, c'est pendant la nuit, ils ne peuvent pas arriver aux cliniques universitaires, donc dans un grand centre. D'abord, le confrère qui est proche du lieu du traumatisme, mettre en place des mesures, donc des traitements qu'on peut dire élémentaires, et puis nous transfère après, par exemple, la journée, pour une prise en charge adéquate.
Professeur Anatole Capey, on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes de votre niveau en chirurgie de la main en RDC. Ils sont combien au total ?
Disons que la prise en charge des lésions traumatiques de la main dans nos pays ne sont pas prises en charge essentiellement par les chirurgiens de la main.
Oui.
En fait, pour répondre en termes des nombres, en fait, sont pris en charge par le médecin généraliste et aussi le médecin spécialiste en chirurgie générale qui sont le plus nombreux dans nos pays.
Oui.
Et aussi pris en charge par les orthopédistes.
Mmh.
Mais par contre, si les deux premiers qui les consultent en amont nécessitent que mon confrère chirurgien de la main peuvent mieux le prendre en charge et ils les transfèrent.
D'accord.
Donc disons que les chirurgiens de la main sont très peu nombreux dans nos pays, mais la prise en charge est essentiellement entre les mains de médecins généralistes, de médecins spécialistes en chirurgien général et également par nos collègues ou nos confrères chirurgiens orthopédistes.
Tout de suite, une question du Sénégal.
RFI à Kaolack.
Et en ligne avec nous, c'est Mamadou. Mamadou, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Alors, vous travaillez, Mamadou, dans le secteur de la santé, puisque vous êtes infirmier. Quel type de blessure de la main est-ce que vous prenez en charge?
Oui, Caroline.
Ça
m'est arrivé une fois au niveau du périphérique où on voit des fois des patients qui consultent tardivement pour des brûlures de la main.
Ça veut dire en structure périphérique, vous êtes quoi? Vous êtes en case de santé? Vous êtes en hôpital régional?
Ce sont des postes de santé.
Des postes de santé. Et quand les personnes viennent, par exemple, pour une brûlure, est-ce que vous constatez qu'ils ont fait eux-mêmes certains gestes qui peuvent être après compliqués à prendre en charge?
Oui, pour certains, ils arrivent à faire ces petits gestes, mais d'autres, quand même, consultent tardivement avec l'utilisation de certaines pommades comme des pâtes dentifrice, soi-disant.
Vous voyez souvent, justement, sur des brûlures, l'utilisation du dentifrice?
Absolument, des fois.
Est-ce que ça complique pour vous le travail ensuite?
Oui, des fois, ça complique un peu la tâche chez nous. Parce que la prise en charge sera un peu long et aussi pour décoller les patients au niveau de la région atteinte, ça sera un peu difficile pour le patient.
Et du coup, il faut faire passer les messages auprès des soignants également pour savoir quoi dire aux patients quand ils arrivent dans ce cas de type de brûlure de la main, comment faire. Alors, est-ce que vous avez justement les réponses, les gestes d'urgence en cas de brûlure à donner à ces patients qui arrivent?
Oui, tantôt on leur donne les conseils, mais quand même, on voit que le message ne passe pas très bien.
Et vous avez besoin justement d'informations à ce sujet?
Oui, absolument, on a besoin d'informations.
Brûlure superficielle de la main, vos conseils, professeur Anatole Kibadi-Kapay, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous prenez en charge?
Oui, disons que les brûlures superficielles, qu'on peut dire en fait, les brûlures du premier degré ou du deuxième degré superficiel, généralement dans nos pays africains, la prise en charge est soit à domicile, soit alors dans des centres périphériques. Ce sont le patient consulte en présence de brûlures profondes, de brûlures beaucoup plus graves. Alors, qu'est-ce qu'ils font généralement? Dans les centres périphériques, ils prennent en charge ou bien une automédication. Généralement, ils utilisent de la vaseline, tout ce qui est flamazine, avec un simple pansement, puisque les brûlures de premier degré, qui sont en fait qui sont caractérisées par un érythème ou bien un aspect foncé, ne nécessitent pas nécessairement une prise en charge. On peut donner un produit hydratant. Donc, disons, pour nous résumer, les brûlures superficielles sont prises en charge dans des centres de santé périphériques. Un simple pansement avec de la vaseline ou des flamazines peuvent suffire. Le malade consulte dans des centres hospitaliers devant une gravité, entre autres de brûlures de deuxième degré profond, de brûlures de troisième degré. Là, ça nécessite une prise en charge chirurgicale. Généralement, un parage chirurgical. Et puis à la longue, on peut faire une greffe cutanée. Dans les brûlures simples, le malade ne consulte pas généralement dans des hôpitaux de grande référence.
Docteur Patrick Knipper, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à la prise en charge des brûlures sur la main?
Oui, bonjour professeur. Oui. La description de la brûlure est excellente. En revanche, ce que moi je me suis aperçu, c'est que entre le discours que nous avons en tant que professionnels de santé et la population, il y a un hiatus énorme. Et j'ai toujours ce sentiment et ce souvenir quand j'étais externe en chirurgie chez le professeur Beau à l'hôpital Rothschild. Je voyais ce professeur qui était un grand spécialiste mondial de la brûlure qui disait... Moi, je ne sais pas faire la différence entre une brûlure du second degré, du troisième degré, du deuxième degré superficiel. La vraie difficulté, c'est que quand un patient a une brûlure ou une pathologie, il n'a pas les capacités, ni l'éducation, ni le réflexe d'apprécier. Mais même l'agent de santé n'a pas cette capacité. Donc le problème pour nous, c'est toujours d'apprécier la gravité. Et il faut se mettre aussi dans les conditions des zones rurales, où les patients n'ont pas d'eau froide pour rafraîchir, ils n'ont pas de pansement, etc. Donc l'utilisation du dentifrice, évidemment, est pour nous une contradiction,
une mauvaise idée.
Mais il faut le comprendre.
Les moyens du bord.
Et voilà, on utilise les moyens du bord. Donc il est vrai que le réflexe le plus simple, c'est de laver la brûlure superficielle et d'appliquer tout simplement voire du beurre de karité, puisqu'on peut le trouver localement, c'est pas cher, etc. Et l'adresser à un spécialiste ou à un médecin. Mais c'est vrai, comme le soulève le professeur Kibadi, le problème, c'est la prise en charge qui doit être différenciée entre la zone rurale ou à distance des CHU et le centre hospitalier.
En tout cas, on remercie beaucoup Mamadou justement pour son intervention de Kaolack, parce que ça nous met proprement en phase avec cette santé du monde rural qui n'est pas tout à fait la même que celle quand on est dans un grand CHU. Effectivement, professeur Kapay, dernière question par rapport justement à votre exercice. Vous recommandez souvent la rééducation, la kinésithérapie après votre prise en charge chirurgicale?
Oui, mais maintenant c'est plutôt la mise en application, puisqu'il y a en fait ce qu'on a fait le frais accessoire y référent. Généralement, vous dites au patient, brûlure, on a réparé, il faut aller à la kinésithérapie, mais le patient lui-même fait déjà une kinésithérapie, une opération qu'on peut appeler active. Mais généralement, quand le patient se retrouve avec un handicap, Dans ce cas-là, il sera obligé de mettre en application leurs recommandations. Donc, il y a en fait une barrière entre notre vouloir et d'une part le vouloir faire du patient. Donc, le médecin recommande la rééducation, mais généralement, quand le patient se rend compte que tout marche très bien, généralement, il est fait. Mais quand il se rend compte qu'il est dans l'impossibilité, qu'il veut récupérer ses fonctions, dans ce cas-là, il obéit aux ordres, surtout comme la prise en charge généralement est une prise en charge individuelle.
D'autant plus qu'il y a le problème financier, bien évidemment, pour payer cette rééducation. Professeur Kibadi Kapaï, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre échange. Docteur Patrick Knipper, le mot de la fin.
Le mot de la fin, prévention plus pour tous les accidents de la main et surtout pour la prise en charge, c'est un travail d'équipe. À la fois du chirurgien, des infirmiers et surtout de la rééducation. Donc faites attention, surtout alors en France pour les fêtes de fin d'année, avec tous les accidents d'huîtres, les ouvertures, les bombes artisanales, etc. Et peut-être en Afrique pour aussi les festivités, les coups de couteau. Donc la prévention, c'est le mot de la fin.
Le mot de la fin, faire attention à soi. Et c'est vraiment très important, toujours de le souligner, ça coûte pas cher. Et ça sauve des vies. Docteur Patrick Knipper, merci pour toutes ces explications. On va parler dans quelques instants. Prévention encore, les recommandations vaccinales cette fois, en particulier pour la dengue à destination des Outre-mer. Juste après, Winnie avec ce titre, Lego dans Priorité Santé sur RFI. Les nouvelles recommandations en matière de vaccination, c'est la Haute Autorité de Santé qui les publie, recommandations pour la dengue, alors que les cas augmentent aux Antilles en Guyane, comme dans les Outre-mer de l'océan Indien, Réunion, Mayotte. On va précisément entrer dans le détail de ces recommandations avec vous, professeur Anne-Claude Crémieux, bonjour. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends parfaitement. Bon, vous êtes donc professeur de maladies infectieuses, présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Alors, ce qu'on observe, bien sûr, pour expliquer ces recommandations de vaccination, ce sont généralement des hausses de cas de dengue dans cette région des Outre-mer, qui est bien sûr très vaste, qui serait partout, un petit peu partout sur la planète. Il faut rappeler que la dengue, c'est une infection virale qui est transmise par les piqûres de moustiques dans la plupart des cas.
Oui, tout à fait. C'est une infection virale qui est transmise, vous l'avez dit, par des moustiques du genre Aedes. C'est une infection qui est généralement guérie spontanément et voire même souvent asymptomatique. Hein, 75% des cas, mais malheureusement, qui dans 5% des cas, peut être sévère, entraîner l'hospitalisation. Et c'est vrai que cette vaccination vise à diminuer ce qu'on appelle le fardeau, c'est-à-dire les hospitalisations et évidemment les formes sévères.
Est-ce que ça veut dire qu'on va justement adresser cette vaccination, la cantonner aux personnes les plus vulnérables, celles qui sont susceptibles de développer ces formes particulières et graves ?
Oui, d'une certaine manière, oui, puisque cette vaccination, elle s'adresse d'abord et avant tout aux enfants de 6 à 16 ans qui ont déjà été exposés à la dengue, qui ont déjà fait un premier épisode. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, chez ces enfants qui ont déjà fait un premier épisode, la vaccination est efficace sur les 4 sérotypes. Elle est bien tolérée et puis, elle permet de les protéger contre une deuxième infection. Or, on le sait, une deuxième infection peut être potentiellement plus sévère qu'une première infection. Donc oui, protection de ces enfants qui ont déjà fait la dengue. Et puis, vous avez raison, la deuxième population, c'est aussi une population qui est vulnérable. Ce sont des adultes de 17 à 60 ans qui ont des comorbidités. Les comorbidités, si on parle comorbidité pour nos collègues des Antilles-Guyane, ils pensent à la drépanocytose. Donc, il y a la drépanocytose, c'est clair. Il y a aussi le diabète, l'hypertension artérielle, les affections cardio-pulmonaires et les insuffisances rénales. Alors, pourquoi la dengue peut être sévère ? Parce qu'elle entraîne une décompensation, une aggravation de ces comorbidités. Et cette fois-ci, qu'il s'agisse du second épisode, comme pour les enfants, qui est en fait le plus souvent le cas chez les adultes parce qu'ils ont déjà été exposés à la dengue, mais aussi on voit des dengues sévères par décompensation de ces comorbidités au cours d'un premier épisode. Et c'est la raison pour laquelle, là, pour les adultes de 17 à 60 ans, on recommande la vaccination chez ceux qui ont des comorbidités, qu'ils aient ou non des antécédents.
Ça va commencer quand, la campagne ?
Alors là, il y a une étape supplémentaire qui est l'accès au remboursement de ces vaccins. Le ministère est déjà en train d'organiser les possibilités vaccination, mais avec un délai que je ne peux pas aujourd'hui vous préciser.
On en est encore au stade des recommandations, on a bien compris, recommandations qui ne sont pas destinées à la France métropolitaine, même si on a signalé sur le territoire des cas de dengue, y compris de dengue autochtone. Et puis on le rappelle, c'est essentiel, être vacciné quand on se fait piquer par les moustiques, ça n'empêche pas d'appliquer les mesures de prévention pour éviter, bien sûr, d'être piqué, notamment la moustiquaire et les répulsifs. Un grand merci à vous, professeur Crémieux, pour toutes ces explications et très bonne journée. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, la prépare et la réalise. Demain, émission Questions de femmes, nous allons parler de la migraine, des migraines au pluriel. Diagnostic, facteur déclenchant, prise en charge et surtout, soulager les douleurs. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.